à Bordeaux, c'est qui porte ça? Tu parlais d'un projet bordelais.
Disparate, en fait, qui pour l'instant est...
C'est en cours? C'est déjà...
Eux, ils ont déjà un fonds de Fanzinotech, et là, ils attendent... l'idée, c'est qu'ils s'installent à la fabrique Pola, donc ils attendent l'ouverture de la fabrique Pola pour présenter un fonds de... Enfin, un fonds, une bibliothèque de Fanzine en... Enfin, ils ont besoin d'un espace public, mais pour l'instant, ils ont surtout une distribution de Fanzine qui viennent... voilà, qui viennent France et un peu Europe.
Ouais, d'accord.
Pour ce qui concerne le centre de ressources, on a évoqué la consultation en ligne. Pour la consultation sur site, est-ce que vous avez vu au fil des ans une évolution des consultations et des travaux d'étudiants sur ces sujets? Est-ce que ça a évolué, ça?
Beaucoup sur la musique. Hein. Il y a eu pas mal de mémoires qui ont été rédigées avec des gens qui sont venus ici.
Sur les fanzines musicaux.
Sur les fanzines musicaux. Et les premiers travaux sont très souvent en sociaux.
Sociaux,
voilà. Et depuis peu de temps, il y a 2-3 ans, là, hein, celui qui regarde, je crois, sur l'esthétique punk, ça c'est intéressant qu'on commence à changer de domaine.
Ouais.
Parce qu'avant, c'était vraiment je sais pas moi, des critères sociétaux, voilà, sociétaux. Et bon, c'est pas très intéressant, je pense. Enfin, peut-être il fallait commencer par un bout, mais là, je pense que sur l'esthétique, par exemple, ça me semble vachement intéressant. Donc ça évolue, mais il y a toujours des gens qui viennent ici faire des recherches, parce que de toute façon, il y a un moment, même si on numérise, il faut venir ici, il faut toucher les papiers, il faut vraiment y toucher en vrai, quoi. Ça, c'est indispensable, quoi.
Et sur la partie animation du lieu que tu évoquais tout à l'heure, il y a des apéros...
des apérosines,
des ateliers.
Des ateliers.
Qui sont destinés à qui?
Après, ici, on est dans un lieu de concert, hein, un lieu d'expo, donc on a du monde et on est ouvert les soirs de concert.
Ah, oui, d'accord.
En fait, pour revenir à l'activité dans l'espace de la Fanzinotech, on a déjà cet espace qui est ici, derrière vous, qui est un espace d'exposition qui nous permet d'inviter des créateurs ou des collectifs de créateurs contemporains. Donc toujours dans cette idée de valoriser le fanzine et de valoriser des personnes qui vont réaliser des fanzines. Donc il y a vraiment l'espace d'exposition qui est lié avec l'atelier d'impression qui est derrière ces portes. Souvent quand on invite quelqu'un à faire une exposition, cette personne est invitée aussi à faire un fanzine ou là pour le coup des posters aussi. Donc là ce soir sera verni l'exposition de Moulinex et donc il y a une exposition, une installation en fanzine qui est produite par la Fanzinotech qui sort et les posters qui ont aussi été produits ici. Donc ça c'est une activité et ensuite il y a effectivement des rencontres, des ateliers, donc là pour le coup qui peut prendre la forme de workshop avec des étudiants, c'est quand on parlait des étudiants de Bitialo qui sont venus. Donc là c'est vraiment des groupes de recherche qui vont soit réfléchir sur comment faire un fanzine. Et il y a aussi des ateliers qui sont ouverts à tous, dans lesquels des personnes qui viennent... Donc là, c'est plus sur des événements liés au site, mais des personnes qui viennent voir des concerts sont invitées à réaliser aussi un fanzine. Et enfin, il peut y avoir des présentations de fanzines de personnes extérieures, où là, juste, on fête la sortie d'un fanzine.
Et il y a un format de résidence pour lié au fanzine, ou pas ? De résidence artiste lié au fanzine, ou pas ?
Ici ?
Oui.
Oui, les personnes qui... donc là, pour le coup, Moulinex habite à Poitiers, donc pas besoin... Enfin, la résidence se fait toute seule. Mais les personnes qui viennent, lorsqu'ils construisent l'installation ou même le fait de faire un fanzine ensemble, forcément, ça ne prend pas un jour. Donc en général, ce sont des résidences qui vont durer entre une semaine et deux.
Mais au niveau de l'équipe aussi, de l'économie du lieu, vous êtes combien ?
Bonne question.
Alors, on est 5 permanents, 4 personnes en CDI à temps complet et une personne en emploi aidé à mi-temps. Et chaque année, 2 volontaires viennent nous rejoindre. Donc volontaire, une personne en service civique et une personne en service volontaire européen. Donc ça fait une équipe de 7 personnes au jour d'aujourd'hui, dont 2 personnes arrivent chaque année, repartent à chaque fin d'année. Et donc pour reparler peut-être les postes de ces personnes, Marie qui est vraiment documentaliste, Grégoire qui je crois est par là-bas, qui est documentaliste lui aussi, qui aide Marie. Gilou qui s'occupe de l'administration et aussi de tout ce qui est le accrochage d'exposition, enfin toutes ces gestions. Bonjour. Anne qui gère l'atelier d'impression. Et donc, moi qui fais le lien entre tout ça. Et pour reparler peut-être du lieu dans sa globalité, la Fanzinothèque donc, se situe sur le site du confort moderne. Donc là, on est sur trois équipes, trois associations, plus un disquaire et un restaurant. Mais sur les trois associations, là, il y a environ une trentaine de personnes qui travaillent. Et donc, le site, c'est là où c'est aussi très intéressant. Le site s'intéresse vraiment à l'art, à la musique, à l'éducation, à la recherche et aux fanzines. Donc, on a vraiment cinq entrées du site qui se correspondent et qui font que quelqu'un qui vient ici peut vraiment... l'idée, c'est de faire des liens un peu entre le tout pour que quelqu'un qui... s'intéresse à l'art contemporain, puisse aussi se retrouver à la fanzinothèque et regarder quels fanzines contemporains peuvent être liés à des pratiques graphiques. C'est exactement la même chose avec la musique.
Et le budget dédié à la structure de fanzinothèque
Là, on est environ à 200 000 euros par an, avec beaucoup d'aide publique. Pas mal de prestations de services, c'est ce qu'on développe notamment avec l'atelier d'impression et aussi toute une partie vraiment qui est liée à des interventions qui se déroulent soit à la Fanzinothèque, soit en dehors de la Fanzinothèque. Mais l'idée est vraiment de réaliser des fanzines avec des personnes qui ne connaissent même pas le mot fanzine, mais en tout cas, on parlait de valeur tout à l'heure, la valeur de faire collectivement, la valeur de faire par soi-même. Enfin, ça, c'est des choses que nous, on fait aussi beaucoup passer par des ateliers. Donc, ce sont des interventions qui peuvent être rémunérées. On a aussi des expositions qu'on a produites au fil de ces... 20 dernières années, puisque 20 ans de Fanzine Rock, elle a été produite en 2000 à peu près.
En 97.
97.
Il reste quelque chose de ça
En fait, ça, c'est des expositions vraiment... on les a produites, et là, à des moments donnés, on va les montrer dans différentes structures. Donc là, on est sous le coup de la prestation de service aussi, par exemple. Là, en octobre, on va aller avec une de ces expositions à la Bibliothèque Fornet à Paris. Donc vraiment pour montrer... Là, on est sur le fanzine graphique, donc montrer tout un panel d'éditeurs graphiques qui existent aujourd'hui, selon différentes directions. Ça peut être photographie de paysage, ça peut être dessin contemporain. Je crois que j'ai à peu près fait le tour.
Et comme il y a... Il n'y a pas des espaces cloisonnés, en fait. Les gens viennent ici sans forcément venir pour la Fanzinothèque, mais... Est-ce que vous arrivez à mesurer un taux de fréquentation? Ça doit être compliqué, quand même, non?
Non, ça en va? Fait, c'est aussi simple que d'avoir un petit papier de noter toutes les personnes.
D'accord. La question était plus... Est-ce qu'on a une estimation, une progression de la fréquentation au fil des ans ou...
Ce qu'il faut voir, c'est qu'on revient dans on est revenu dans cet espace depuis décembre. Donc là, en fait, on est vraiment sur c'est ça. On est parti en février 2016. La Fanzinothèque ne ressemblait pas du tout à l'espace que vous voyez aujourd'hui. Elle n'était pas située au même endroit. Elle était dans un recoin beaucoup plus sombre, beaucoup plus reculé. Donc c'est là où il y avait tu me dis, Marie, si je me trompe, même beaucoup de personnes qui venaient surtout durant les concerts, les manifestations.
Oui, la fréquentation, elle est en soirée.
En fait, elle était beaucoup en soirée. Ensuite, on a décidé de quitter les faubourgs de Poitiers pour aller vraiment dans le centre-ville de Poitiers. Donc là, on a eu une fréquentation qui était tout autre et qui, là, pour le coup, était vraiment durant la journée. Des personnes aussi qui ne connaissaient pas la Fanzinothèque qui l'ont découverte comme ça. Et là, donc, c'est vraiment depuis décembre 2017 qu'on est de retour ici. et où là, pour le coup, il y a vraiment, je dirais, les deux qui, les deux fréquentations, deux types de fréquentations, soirée et journée, qui se complètent. Donc là, j'ai pas forcément. Si, je sais que décembre, janvier, février, ça a été vraiment. Enfin, là, on est vraiment sur réhabilitation d'un site de 8 500 m². Donc, forcément, là, il y a eu énormément, énormément de visiteurs. Ça s'est un peu calmé durant le printemps. Et en fait, là, vous êtes au moment de la réouverture de l'année 2018-2019. Donc voilà. Mais encore une fois, là, on n'a même pas terminé une année. Donc, c'est un peu compliqué.
Oui, pour l'instant, ça sert à rien.
Oh, ça sert. Enfin, ça là, sert en revanche, je vous rejoins complètement. C'est important. Là, c'est du court terme.
Moi, j'avais une question qui va dans le même sens par rapport donc, à la fréquentation. Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui viennent ou c'est encore pas tellement exploité
Il y en a toujours, deux, trois à l'année.
Voilà.
Ouais. Et après, je fais beaucoup de choses à distance, les gens ne se déplacent pas, mais on me demande de la doc sur, je ne sais pas, les berrues, les tugs, je ne sais quoi. Et moi, je peux numériser.
Vous l'envoyez numériser. Ouais. Ouais. Donc, il y a ce service-là aussi.
Là, on revient à l'adhésion de la Fanzinothèque à proprement parler. Ouais. Quelqu'un qui adhère peut venir ici et emprunter, comme dans une bibliothèque, trois fanzines durant trois semaines, un mois. Et il peut aussi demander avoir droit à certaines numérisations. Donc là, c'est vraiment un travail qui est très poussé avec Marie, qui quelqu'un qui va demander, alors je me souviens des Tintins.
Il y a quelqu'un qui cherche toutes les caricatures de Tintin. Donc quand je tombe dessus, je scanne.
Au long cours. Oui.
Mais voilà, donc il y a ce travail qui peut être, qui est plus poussé. Par rapport aux chercheurs, je dirais que justement depuis décembre, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent. Enfin, l'espace est plus approprié à ce que, il peut y avoir une table avec des personnes qui sont à cette table, qui vont venir regarder. Après, dans ces cas-là, c'est un peu ce que disait Marie tout à l'heure. Marie et Grégoire sont vraiment en appui pour aider les personnes aussi à retrouver des fanzines parce que avec l'indexation est très bien réalisée aujourd'hui, mais effectivement, entre 2007 et 2009, quand il a fallu rentrer 40 000 ouvrages en deux ans, forcément, c'était pas, il n'y avait pas le même temps. Donc, mais moi, j'ai l'impression que depuis décembre, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent ici et qui viennent s'adonner à des recherches.
Oui, puis le fanzine, c'est un peu moins un objet mystérieux. Ça commence quand même à rentrer dans la société. C'est un mot qu'on peut lire dans la presse, qu'on peut entendre à la télé. Ça commence un petit peu à être un peu plus connu. Donc les gens peuvent savoir ce que c'est, ou du moins ne plus avoir les appréhensions dans cette chose-là. Mais là, c'est intéressant parce qu'effectivement, les derniers chercheurs qu'on a eus étaient plus sur le graphisme, de l'esthétique. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Intéressantes.
Surtout que vous apportez un soutien. C'est quand même. Comment vous limitez ça, par exemple, si cette personne qui recherche quelque chose de précis, vous le faites à l'occasion, mais vous.
C'est bien. Quand c'est précis, parce qu'il y a deux ans, il y a des. Petites étudiantes qui sont arrivées en me disant on cherche des fanzines punk.
C'est passionnant de ça.
Ouais. Bon, alors il faudrait me donner une année à payer quelque chose, quoi. Ouais. Parce que là, c'est pas possible comme ça, quoi. Donc c'est là qu'on intervient, justement. Alors en fait, elle voulait plus des trucs américains et féministes.
D'accord.
Alors voilà, c'est plus clair. Voilà, on peut pas arriver comme ça, dans cette masse de documents, s'y retrouver, quoi. Même moi, je m'y retrouve pas. Ouais. Maintenant, le dernier truc que je fais, là, c'est pas mal avec le projet PIND, c'est beaucoup d'écriture. Ce que j'ai jamais fait avant, parce que j'avais pas le temps. C'est de reprendre, je trouve ça intéressant de reprendre par ville. Je pense que c'est vraiment la meilleure approche, par ville ou par période. Mais par période, c'est trop vaste. Je pense que par ville, c'est vraiment le plus pertinent. Je l'avais fait pour Rennes. Et là, je trouve que c'est bien. On restitue quand même une scène. Il faut qu'on ait un peu du document aussi. On a quand même beaucoup de choses, quoi. On n'a pas forcément tous les fanzines qui ont été créés sur une ville. On a suffisamment, disons, pour donner quand même une vision un peu claire du truc. Et je trouve ça intéressant par scène, comme ça, là, par ville, par région, plus que par type musical, c'est compliqué, parce que le punk, ça veut plus rien dire. Est-ce qu'on peut parler du hardcore, noise, machin, grunge, truc. J'ai pas envie de trier là-dedans, parce que c'est les mêmes gens c'est juste une évolution de la musique. C'est les mêmes qui faisaient du punk en 82 et qui ensuite vont faire du hardcore brutal parce que la musique évolue, ouais, et puis elle se fusionne énormément.
Les dénominations évoluent aussi, d'ailleurs.
Du coup, là, quand, si quelqu'un fait une recherche par ville, donc par exemple pour le PID, vous avez donc cette indexation par ville qui lui permet directement de s'orienter ou...
Tout ce qui ne va pas être complètement indexé, on aura au moins le département.
Ouais.
Il y aura au moins mention du département.
Oui, puis la ville et ses alentours aussi.
Voilà.
De toute façon, c'est une scène,
oui.
C'est pas toujours la ville.
Après, voilà, par exemple, pour Rennes, je suis restée à Rennes. Hein. Je n'ai pas fait 3 km plus loin, mais ça n'a un peu aucun sens. Puis ça dépend des régions. Hein. Des fois, il va y avoir beaucoup de distance entre les scènes ou alors ça va être très très proche. On a le cas avec Diffart, c'est appartenu, c'est à 50 km, on a toujours marché ensemble. Parce que 50 km, c'est ce que tu fais pour aller voir un concert, quoi. C'est vraiment des distances, on est parti quand même de notre vécu. Quand on a créé l'Arsenal, c'était ça le truc. C'était, bon, un rocker moyen, il peut faire 200 km pour avoir un concert. Donc on va annoncer sur un... Et puis comme il n'y avait pas grand-chose, forcément, il faut aller un petit peu sortir de Poitiers, c'est évident. Après, annoncer un concert à Strasbourg, ça n'a plus de sens, quoi. Mais voilà, j'aime bien cette idée de proximité, parce que d'autant qu'on peut retrouver les acteurs, il y a quand même beaucoup de gens qui restent dans les villes. Hein. On peut comme ça reconstituer des parcours entre l'Arsenal pour les inforoc et puis après les fanzines complètes. Du coup, on va repérer des groupes, par exemple, mais après, on va les retrouver dans les fanzines, avec des interviews. Donc là, on va savoir que machin joue avec machin, qui faisait tel groupe avant. On va refaire des filiations. Comme ça a été fait à Rennes, ce qui est hyper compliqué comme travail. Filiation entre les groupes, c'est un truc de malade, quoi. Mais c'est intéressant, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Oui, c'est vrai, Marie, au bout de 30 ans, quand même, tu dois avoir une certaine fierté, parce qu'il y a beaucoup de passion qui a mobilisé tout ça.
Ça, c'est que les fanzines, c'est passionnant.
Oui, donc ce que c'est devenu, le bébé a grandi.
Ouais.
Et maintenant, c'est un vrai outil à plusieurs entrées.
C'était donc, quand même pas gagné.
C'était pas gagné. Il y a beaucoup au départ de un côté artisanal quand même. Donc,
ouais,
des choses.
Ouais. Et puis à quoi bon ? Enfin, c'était aussi à quoi bon garder tout ce tas de papier, quoi. C'est la ville qui l'a voulu. Hein. Qui a voulu, en fait, à la base, c'était quand même pour conserver des journaux lycéens. On nous a filé des stocks de journaux lycéens, on les a foutus dans un carton et on les a toujours pas dépouillés. 30 ans, ça viendra, hein, on les a pas jetés quand même. Mais directement, nous, Didier, celui qui a monté la structure, était disquaire ici, donc forcément, on distribuait des fanzines, donc on a continué. Hein. C'est là que ça bougeait, de toute façon. Tout ce qui était fanzine BD, ça commençait un peu à se casser la gueule, c'était un peu la fin d'une période, c'est revenu plus tard, mais là c'était le rock qui marchait, hein. Il y avait plein de fanzines. Donc.
C'est vrai que c'est lié à la jeunesse finalement, moi je sais que j'ai gardé aucun des fanzines que j'avais parce qu'à un moment donné tu déménages, et du coup cette fonction-là que vous avez, comme c'est... Bon, après il y a le graphisme, ça peut être des gens plus âgés, mais au départ... Je ne pense pas exagérer, c'est quand même très lié à un contexte de jeunesse et on ne les garde
même
pas
nous, on
forcément.
On a perdu nos fanzines. Hein.
Voilà, du coup, ça a une fonction vraiment utile.
Comme quoi, il ne faut pas déménager.
Voilà.
Il faut avoir les parents qui gardent.
Voilà, il faut avoir des caves, la possibilité d'archiver. Quoi.
Est-ce que, il y a depuis quelques années, au moins 10 ans, de plus en plus d'éditions de livres avec des facsimilés, avec Sniffing Glue, etc., de fanzines. Est-ce que vous avez dans vos missions que vous donnez vous-même la publication, on va dire, de collections, des facsimilés de fanzines, justement, pour les peut-être parce qu'ils ont été importants, point de vue historique, et est-ce que ça fait partie des choses, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure,
sur le fait que... Ça, on avait édité ça, là, c'était sur le fond anglais et américain, musical.
Ouais. Là, je parle vraiment
alors, c'est pas
de facsimilés.
Tu sais qu'après, il faudrait avoir les droits.
Oui, justement, parce que ça fait partie
Là, on ne le fait pas. Donc là, je redirais, ça peut être sur demande ou sur des constructions de projets ou des choses comme ça, mais de nous-mêmes, on ne le fait pas. Enfin, moi, je trouve que voilà, déjà, c'est les petits catalogues avec les indexations.
Oui, ça, c'est ça. Moi, je m'en sers beaucoup. Hein.
Là, je suis tombé sur un de mes fanzines, 20 exemplaires. Il est dedans, je ne sais pas comment vous avez eu l'intérêt.
On lit les fanzines.
Bah,
comment il s'appelle, on l'a peut-être pas.
Hein, non, vous l'avez pas.
On l'a pas. Mais par contre, j'avais lu quelque part une chronique qui disait que ce fanzine.
Ça, je pense. Bonjour.
Mais ça, c'est en ligne. Ouais, tous les RPBM sont en ligne. Ouais. Comme c'est deux fois par an, donc t'as vraiment, ça suit vraiment fidèlement. Ouais, puis là, tu suis vachement bien sur 20 ans. Il y a le nombre de fanzines à chaque fois dans le répertoire. Quand ça a 200, ensuite 400, enfin, tu vois très bien un peu les courbes. Quand ça, il y a des chutes, il y a des dates aussi en septembre, en octobre, c'est là qu'il y a le plus de fanzines qui paraissent après les festivals. Clairement. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des liens avec les écoles de l'image d'Angoulême? Est-ce que, je pense aux gens de Lézy, par exemple, parce que beaucoup des étudiants de Lézy développent des petites revues. Ah, ils ne pensent pas en termes de fanzine, en fait. Ils pensent plutôt en termes de revues.
En fait,
mais c'est très proche. Hein, dans le...
ouais, là, c'est vraiment le nom. Eux, ils parlent de publication.
Oui, voilà, c'est ça. Micro, voilà,
ouais. Mais oui, là, en fait, chaque année, enfin, l'année dernière, moi, je suis vraiment allée et à Poitiers et à Angoulême pour présenter, alors, pas forcément la fanzinothèque, mais vraiment les fanzines, ce
comme
que ça
forme,
peut être, leur montrer des formes. Et en fait, il y a des échanges autour de tout. Des workshops qui peuvent se faire, mais bien sûr que les liens avec les écoles d'art, elles sont ultra importantes. Ça fait pas longtemps, encore une fois. Enfin, là, il y a juste un panorama qui se déplace, mine de rien, de plus en plus. Et je dirais même, il y a 5 ans, le lien fanzine-école d'art, c'était impossible. Aujourd'hui, beaucoup plus. Mais, et même avec le nom fanzine, puisque là, à Marseille, il y a un festival qui se situe au FRAC, qui s'appelle Rebelle Rebelle, et où là, c'est vraiment les fanzines graphiques qui sont mis en avant. Mais ils parlent vraiment de fanzines. Donc, c'est des histoires de mode et de choses comme ça, mais ça revient pas.
Au niveau des critères esthétiques, même sur les parutions récentes, on retrouve, entre guillemets, les stigmates des années 80.
Oui, dans ce que vous avez dans les mains, en fait, ça, c'est pas forcément des publications récentes, mais vraiment, là, on les a pas mis en avant.
C'est pas une publication récente, ça ?
Non, celui-ci, il a été fait il y a, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et ça, c'est fait par la fanzinothèque autour des fanzines punk et rock.
Ouais.
Mais là, vraiment, dans les fanzines qui arrivent aujourd'hui, là, on est plus... c'est souvent 20 ans en arrière, donc là, on voit apparaître les années 2000, en fait.
Ah, d'accord.
Et au niveau des graphismes, il y a pas... Enfin, il y a vraiment plein d'esthétiques
différentes. Tout est possible, des esthétiques différentes. C'est pas daté comme ça l'était à un moment donné.
Ça l'est, mais ça bouge et après, c'est très disparate, encore une fois.
C'est nourri de l'histoire de fanzine, quoi, en fait.
Il y a plus ou moins, parce que, il y a des étudiants en école d'art qui se nourrissent pas de l'école du fanzine, mais qui vont, enfin, de l'histoire du fanzine, mais qui vont vraiment juste, leur production, les réaliser sous forme de fanzine. Ils savent même pas que c'est du fanzine, mais c'est... Donc non, les personnes qui font du fanzine aujourd'hui ne connaissent pas du tout forcément l'histoire du... D'autant plus qu'il n'y a pas une histoire du fanzine, mais il y a des histoires du fanzine, là. On en a raconté une, celle du fanzine lié à la musique, mais là, si on va sur l'histoire du fanzine, et enfin du gravezine, par exemple, enfin, le dernier cri... bon goût, etc., c'est toute une autre histoire. Donc, en fait, les fanzines, c'est des histoires. Enfin, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on n'est pas sur l'histoire avec un grand H, mais on est sur des histoires parallèles. Et c'est là où on revient à cette notion de durée et de temps. Sur le moment, les histoires parallèles, on ne fait pas trop attention, mais 20 ans après, 30 ans après, c'est là où elles sont importantes. Et c'est là où, effectivement, la fanzinothèque est nécessaire, parce qu'elle permet de retrouver ces histoires qui, ont des lignes qui sont complètement différentes de ce que l'histoire avec son grand H et ses manuels scolaires va retenir.
Je ne sais pas si vous connaissez cette librairie qui se trouve rue de Ménilmontant, le Montant-l'Air. Hein, c'est une vraie caverne d'Ali Baba, là aussi, là-dedans. Hein, donc il y a des fanzines, des trucs pas possibles. On ne trie pas d'exemplaires, on ne sait pas où ils dénichent ça, quelque part.
C'est vraiment, souvent, au niveau des fanzines, c'est des personnes qui vont passer au Montant-l'Air pour les déposer et pour qu'ils soient vendus. Donc là, on en revient à des histoires de rencontres, exactement comme c'est des personnes... qui soit viennent ici, soit qu'on rencontre sur des salons, qui nous laissent les fanzines. Il y a vraiment une rencontre directe.
Ouais.